Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Alors, il y a quelque chose qui se dit très souvent sur Sens Néant. On dit oui, c'est un jeu qui fait peur, OMJ, c'est un jeu qui est très effrayant de par le contenu du livre, le fait qu'on joue des créatures étranges. Et je dis toujours, ne vous en faites pas, lancez-vous et vous verrez, ça ira bien. Eh bien aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Shadow. Shadow, ça va ?
Bonjour, ça va très très bien.
Je suis très heureux de te retrouver sur le podcast de La Cellule. Nous sommes également avec Emmanuel.
Salut.
Et Shadow, tu viens, alors nous serons également rejoints en cours de podcast par Maxime, qui pour l'instant est retenu dans les embouteillages, hein, puisque nous sommes... J'aime bien dire ça, ça fait très grand studio. Donc il va arriver d'une minute à l'autre, bien entendu.
Et donc, Radio France est difficile d'accès avec les travaux en ce moment.
C'est exactement ça. Et donc, toi, Shadow, tu viens avec une bonne nouvelle. Tu viens pour me dire qu'en gros, j'ai raison, quoi.
Voilà. bah merci, c'était...
Fin du podcast.
À la prochaine.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, je viens pas pour te dire que tu as raison, même si dans les faits, voilà ce qui se dira, mais pour rassurer les MJ, en fait.
Ouais.
C'est essentiellement ça. J'ai tenu des propos la dernière saison disant qu'effectivement, Néant m'effrayait un petit peu. J'étais pas sûr de pouvoir le maîtriser correctement. Enfin voilà, la lecture du livre, je ne savais pas trop comment aborder les choses. Et puis, en préparant les parties, en jouant, les choses vont se décanter un petit peu.
Alors justement, toi Emmanuel, Néant, c'est justement l'un des tomes qui te fait le plus peur également.
Ouais, moi j'ai commencé une campagne, donc elle est je suis encore sur du Néant papillon, et je pense que je vais faire durer très très longtemps, parce que c'est vrai que l'abord de la campagne me fait un petit peu flipper.
D'accord. Alors qu'est-ce qui te fait peur ? Est-ce que tu as identifié les différents problèmes ?
Alors, déjà, les problèmes avec lesquels je me bats maintenant et qui me faisaient peur bien avant, c'est évidemment la richesse de l'univers et le basculement du paradigme. Donc, c'est pas évident à appréhender pour les joueurs. Alors, j'ai eu du bol, c'est une de mes craintes aussi, mes joueurs l'ont vraiment accepté.
Le changement de paradigme.
Ouais. Et pour le moment, on trouve que c'est quelque chose de très riche et ça leur plaît. Donc, c'est déjà une chose.
Ouais.
Mais avant d'y être, on peut pas être sûr que ça va... Ouais. Enfin, j'étais pas sûr que ça fonctionne.
En fait, ce que tu dis là, c'est que tu penses qu'on arnaque un petit peu les gens, entre guillemets, sur la marchandise. C'est-à-dire qu'on leur promet un jeu de SF post-apocalyptique, voilà, et on se retrouve d'un seul coup dans un espèce d'univers proche du médiéval fantastique ou au moins du médiéval onirique. Et du coup, ça peut éventuellement faire peur. Ah, voilà Maxime, les embouteillages parisiens se sont décantés. Ça roule sur le périph', Maxime ?
C'est fluide.
C'est énorme. Ah, Maxime, putain. T'as un putain de niveau. Alors, donc, on parlait justement de la peur que peuvent ressentir certains sur l'aspect game change. C'est-à-dire le côté, on était dans un univers de space opéra, de post-apocalyptique futuriste, et on se retrouve d'un seul coup dans un univers médiéval fantastique. Est-ce que toi, lorsque tu as lu Sens Néant, Maxime, ça a pesé, ça a joué, est-ce que ça t'a fait peur ? Tu t'es dit, mes joueurs, ça va pas leur plaire, ou ce genre de choses ?
Non, je me suis pas dit, les joueurs, ça va pas leur plaire. Je me suis dit, ça va être un gros changement, et il va falloir trouver des techniques pour faire la transition en douceur.
D'accord.
Honnêtement, à la première, en fait, je l'ai pas lu en premier, je l'ai joué. Et à la lecture, j'étais surtout saturé par toutes les infos. Je me suis demandé comment je vais organiser ça. Et du coup, j'ai écouté beaucoup les podcasts. J'ai discuté avec pas mal de MJ en off. Donc, n'hésitez pas à faire ça, ça marche bien. Pour découvrir des techniques qui me permettront de faire transiter mes joueurs. Mais sinon, j'avais absolument pas peur. Je me disais que ce serait un autre monde pour eux. En plus, Mort commençait à leur taper dessus sévèrement. Et à la fin, on sent que ça devient presque trop. C'est là, au bout d'un moment, ils disent... Franchement, on peut vraiment tomber plus bas là. Ils ont besoin de ce moment de souffler. Mais en termes de jeu, les personnages, mes joueurs en tout cas étaient persuadés que leurs personnages n'avaient pas encore l'esprit pour souffler. Il a fallu vraiment un moment de transition pour se dire ok, c'est bon, on a le droit aux vacances. Parce qu'eux, ils étaient là dans l'esprit, on doit sauver Céline, qu'est-ce qu'on fout là, Et l'argument qui fait tout, c'est quand Classis leur dit « Non mais ici, le temps est suspendu, on peut faire ce qu'on veut, rien n'aura changé.
Ouais. »
Là, ça commence à... Ouh, ok. D'accord, mais il faut quelques clashs au début.
Il y avait un mème comme ça sur Sens, posté par Jérôme, qui disait, ou je crois que c'était Morgane d'ailleurs qui l'avait trouvé ce mème, possède des pouvoirs fabuleux et organise des camps de vacances, pour vous dire une création. Et en parlant de classisme justement. Alors, Shadow, qu'est-ce qui te faisait peur ? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ?
Alors, je vais répéter un petit peu ce que disent mes camarades. Effectivement, beaucoup d'informations. Donc, comment hiérarchiser tout ça ? Comment donner les secrets ? À quel moment, enfin voilà, que faut-il garder pour soi, etc. Enfin voilà, ouais. C'est vraiment la masse d'informations qui nous fait dire waouh, il va falloir vraiment que. Enfin, il y a un vrai travail, quoi, en amont, de notre part, de mémorisation ou d'organisation de fiches ou n'importe quoi. Mais
et
voilà,
tu n'as pas vrai. Ressenti ça avec Sens Mort ?
Eh bien non, pourquoi ?
Ouais, c'est bizarre, parce que.
Sens Mort, finalement, le monde, on le connaît. C'est le nôtre qui est un petit peu sublimé dans ses côtés les plus noirs. Enfin voilà, on l'appréhende assez facilement finalement. On a vu beaucoup de films qui se penchent sur la question, etc. On a une imagerie qui est déjà présente. Alors que dans Néant, eh bien, et c'est là la difficulté, on va prendre nos joueurs par la main et leur dire bon ben voilà, maintenant on va aller dans un endroit que vous ne connaissez pas et que moi je connais peu. En tout cas, à la lecture du livre, c'est ce qu'on se dit. Effectivement, à force de préparer ses parties, etc., c'est ce monde, nous, on va apprendre à le connaître. Mais voilà, il faut emmener ces joueurs dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On va les sortir de enfin, comment dire, on va les obliger à se créer une nouvelle imagerie à partir de nous seulement. Donc, d'accord. Bien sûr, on peut prendre des références cinématographiques, etc., mais je rappelle que quand on présente l'univers, je le présente pas en tant que Shadow. Ce qui serait beaucoup plus simple, finalement. Je le présente en tant que classiste qui va avoir des références. Lui, il a absolument toutes les références, les mêmes que moi. Mais pas les bugs. Donc, présenter l'univers en étant un personnage, ça rajoute une complexité, ça rajoute une difficulté. Donc c'est déjà, voilà, il y a cette première...
J'avais pas pensé à ça.
Ce premier mur, enfin, cette première barrière, on va dire. Enfin, c'est le deuxième, parce qu'en fait, il y a déjà la masse d'informations, plus ceci. Puis après, la troisième, c'est effectivement, enfin, ce que tu disais, c'est pas qu'on leur ment en leur proposant autre chose que ce pour quoi ils avaient signé. Parce que je crois que quand on joue à Sens, on se rend compte que le jeu peut partir à peu près dans tous les sens. Mais voilà, on reste, en jouant à Sens, finalement, on est assez ouvert à la proposition. Je sais pas si
c'est vrai que pour ça, au moins, ils sont prévenus depuis le début qu'ils vont se faire balader dans des trucs incroyables. Donc, ils sont quand même prêts à tout, dans tous les cas, les joueurs.
Les joueurs, et c'est là où...
Les joueurs, après les persos. Mais bon, pour revenir au côté, bon, bah, y a plein de trucs à gérer. C'est vrai que moi, j'ai un peu, quand je joue à Néant, j'ai un peu l'impression d'être Shiva avec six bras. C'est-à-dire que d'un côté, il faut gérer bon, bah, le fait... un truc tout con, mais qui est pas si simple que ça, leur expliquer le coup du quand est-ce que je suis classiste, quand est-ce que je suis Emmanuel. Donc, du coup, j'ai fait basculer, moi, un token pour leur dire, voilà, je suis l'un, je suis l'autre. En plus, c'est très bien, ça marque le début de la partie, un peu comme le fait de lancer la musique, donc c'est pas mal. Mais, du coup, il y a des moments où quand je me mets à reparler aux bugs, ils me disent, bah, attends, non, mais non, là, il faut retourner le verbe. Mais non, c'est pas parce qu'on passe de l'univers des bugs à l'univers des sept entrées qu'il faut changer. Enfin, rien que ces trucs-là, ça met une ou deux parties à se mettre en place. En plus, il faut gérer la narration à la troisième personne. Il faut gérer toutes les questions que tu n'auras jamais dans un autre jeu de rôle qui est mais je ne comprends pas vraiment. En fait, du coup, ils se parlent sans le vouloir, ils se prennent les sentiments des uns des autres. Mais est-ce que le fait d'aller lire quelqu'un, c'est comme de discuter avec lui ? Est-ce que c'est une intrusion ? Est-ce que tout ça ? Tout un tas de questions qui sont liées au fait que les sept entrées sont hyper différents des humains et que bon, quand tu joues un elfe ou quand tu joues une méduse, pour prendre l'exemple d'Agon, ouais. Tu te poses pas ces questions-là. Donc il y a énormément de questions sur l'univers qui font que au final, on fait pas avancer très très vite les premières parties, mais voilà, plus toutes les écoles à prendre en main et tout. Alors moi, pour le moment, je fais du petit name dropping en me disant c'est pas grave s'ils se souviennent pas que Indales machin, mais au moins ils auront entendu le nom plusieurs fois, et puis quand j'arriverai dans la campagne, c'est bon, ils auront bien en main... Oh, je te fais soupirer.
Non, au contraire, il est d'accord avec toi.
Ouais.
Shadow.
Alors, il y a plusieurs choses à répondre. Déjà, on a une arme qui est l'anthropomorphisme.
Voilà, ça c'est.
Alors, moi, je l'ai utilisé à outrance parce qu'en fait, au début, j'essayais de mêler le fait que les combats se passent en un instant, puisque c'est un échange très rapide de sentiments, et en même temps, qu'il y ait beaucoup d'anthropomorphisme. Enfin, le mélange des deux a perdu certains de mes joueurs. Et j'ai dû faire le choix de le faire à outrance. Donc de dire, bon, bah, allez, on arrête l'aspect, tout se passe dans l'instantané, etc. Et on va le faire comme si c'était des humains, c'est-à-dire que vous allez les voir se battre, etc. C'est un peu malheureux, mais ça a sauvé ma partie. Enfin, ça a sauvé mes parties, en tout cas.
Maxime. Ouais, moi, je fais exactement. En fait, j'ai même pas essayé de faire le coup de l'instantané. Ils étaient déjà tellement perturbés, mes joueurs, par tout ce qui se passe à côté, que juste dire les combats, ils sont monstrueusement épiques. Mais ça, enfin, je leur ai dit à moi, oui, en fait, c'est plus des sentiments que. Et mes joueurs, j'ai bien vu à leur regard que c'était genre, mais attends, j'ai pris ma hache, je l'ai tabassé ou pas ? Enfin, c'était, voilà, c'est ça, c'était ouais. Est-ce que j'ai vraiment pris mon. Alors, il y en a un, c'était quoi ? C'était, est-ce que j'ai vraiment transformé mon Myriadien en arc pour lui balancer Fury dans la gueule ? Ou est-ce que je l'ai pas fait ? J'ai dit, non, vas-y, non, c'est cool, vous l'avez fait. Enfin, métaphoriquement, vous l'avez fait. Alors là, tu as utilisé un gros mot.
Voilà. Puis tu peux même leur répondre, mais en fait, enfin, excuse-moi, mais c'est pas vraiment un arc que tu as, c'est une représentation. Voilà. Et là, c'est fini, parce là. Que du coup, j'ai un arc, j'ai pas un arc, j'ai pas bougé. Est-ce qu'on m'a vu, est-ce qu'on m'a pas vu, enfin.
Ouais, tu laisses tomber, juste ça se passe comme ça, et c'est cool, c'est onirique, on fait YOLO. Et mes joueurs m'ont très bien résumé la chose en me disant, j'ai l'impression de vivre dans un fait de cellules permanent dans Sens Néant.
Ah oui, mais.
Et
C'est très intelligent, enfin, c'est exactement ça.
Et je dis, bah, c'est nickel, si c'est ça, c'est ça. Nickel.
C'est exactement ça.
Et du coup, en effet, il faut au moins une ou deux parties pour s'y mettre, et il y a toujours au moins un joueur par table pour qui ça bug.
Oui, c'est ça, c'est vraiment un joueur par table, enfin, c'était le cas aussi pour ma table, je sais pas après.
Pas forcément, il y en a qui sont plus actifs que d'autres, et d'autres qui, voilà, se laissent plus porter, mais je. Non, en fait, j'ai l'impression que j'ai réussi à embarquer tout le monde sur le truc. Ouais. Après, c'est vrai que moi, par rapport à cette question de, enfin, pour les combats, il y a même un moment où ils m'ont dit, mais est-ce que des fois ils se frappent physiquement, quoi ? Parce que moi, justement, je suis partie dans l'extrême de leur dire, bah oui, mais effectivement, tu peux faire une atteinte physique, mais ça fera pas avancer le Schmilblick, quoi. Donc
c'est juste qu'ils n'ont pas la distinction physique et mentale. C'est-à-dire, en fait, pour eux, tout est mental ou tout est physique, en un sens. Mais il n'y a pas cette distinction. Et donc, du coup, oui, ils ont des contacts physiques, mais ils sont mentaux. D'après, ça veut dire, en fait, c'est ça. Ce qui perd, c'est que nous, dans la réalité, dans notre monde, on a deux niveaux. On a un niveau physique et un niveau mental. Et puis en plus, si on prend le cas du jeu de rôle, le niveau mental, il sert souvent à faire de la magie. Donc du coup, on a une vision de la magie comme étant le mental qui se réalise dans le physique. Et donc du coup, le mental qui se physicalise, si j'ose dire, qui devient physique. Et donc la télékinésie, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que cet objet bouge et il se met à bouger. Là, ici, on a des créatures qui ne sont que dans le mental ou que dans le physique, mais en tout cas qui n'ont pas de niveau. Et c'est ça qui perd, en fait, les joueurs au départ. C'est une métaphysique qui n'est pas du tout naturelle.
Il y a un moment où, moi, ils m'ont reposé la question plusieurs fois, c'est qu'est-ce qui se passe si je prends un objet et que je le casse, pas que je le brise, ben, que je le casse.
Que je le casse ben, Donc, si je résume, Maxime, tu voulais ajouter quelque chose ?
Juste, je voulais savoir si tu avais fait des scénars solo pour commencer avec tes joueurs.
Alors, j'ai un problème par rapport à ça, c'est que je suis à une heure de route de mes joueurs, donc je ne suis pas partie sur les scénars solo. J'ai fait quelques séances Skype pour la création des personnages, mais j'ai horreur du RP par Skype, donc voilà, là pour le coup.
C'était vraiment purement technique. Quoi.
C'était là pour le coup, c'est technique. Mais je sais que ça m'aurait aidé.
Parce que moi,
ça m'aurait beaucoup
aidé. C'est ce qui a révélé les problèmes. Quoi. Quand j'ai fait la première séance où Classis raconte l'univers, ça a été très long, très dur pour les joueurs parce que c'était épuisant. J'ai bien vu à leur cerveau, à la fin, ils étaient là. Oh putain, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a juste commencé la création de perso. Et après, je les ai chacun pris l'un après l'autre, plus tard dans la semaine, pour un petit scénar solo. On a terminé le perso, on a fait une première scénar solo qui a duré une heure, mais c'était parfait parce que j'ai été hyper surpris par les joueurs qui ont tout de suite adopté le système. Il y en a direct, ils ont commencé à forger comme des oufs, faire de la lecture sentimentale, ils ont commencé à surkiffer, à se lier à tout le monde. Et il y en a un qui est étrangement maintenant a posteriori l'un de mes joueurs les plus créatifs à la table, qui au début il était là, j'ai commencé à lui faire une plage qui lui parle, une tortue qui essaie juste de rejoindre son amour dans l'eau, il était là, il m'a arrêté, il a dit classique, je comprends, blue screen, qu'est-ce que je peux faire, je comprends pas, quoi, qui que, il me parle. Comment ça, il me parle ? Il m'envoie des sentiments. Enfin, bref, voilà, complètement BSOD. Et
BSOD, ça veut dire quoi ?
Blue Screen of Death.
Blue Screen of Death.
Et, et du coup, bam, il a bugué. Donc, avec Classis, on a tout de suite repris une demi-heure, trois quarts d'heure
c'est
pour y aller doucement.
Bug.
C'est
vrai,
voilà. C'est beau.
Mais bien sûr.
Et ça c'est ouf, quoi. Parce que ça fait que le joueur, ça l'a tellement débloqué d'avoir pris ce temps, d'avoir montré le fait qu'il n'avait pas compris, juste en privé, juste nous deux. Il m'a montré qu'il n'avait pas compris, que sinon, et si ça n'avait pas fait ça, il aurait passé la campagne derrière, je pense, à être en mode je comprends rien à ce qui se passe. Et...
Je vais juste faire un petit résumé, je te passe la parole.
Voilà, c'est ce que j'allais faire.
Ce qu'on a dit, c'est. En fait, finalement, les craintes que vous avez, ce sont les craintes que tout maître de jeu a devant un nouveau jeu de rôle. C'est-à-dire, en fait, est-ce que ce jeu de rôle va plaire à mes joueurs ? Sauf que là, il y a une contrainte supplémentaire, c'est que quand on présente un nouveau jeu de rôle à ses joueurs, on a toujours le choix de refuser. Or là, comme la campagne est commencée depuis très longtemps par rapport à Sens, on sent que ça va être difficile pour les joueurs de refuser de jouer à Sens Néant. Vous voyez où je veux en venir ? Donc on présente un nouveau jeu avec l'obligation de plaire. Et alors là, du coup, on se retrouve confronté à tous les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure. Problèmes liés à l'univers, à l'assimilation de toutes les nouvelles données, etc. L'avantage du solo, pour rebondir sur ce que disait Maxime, c'est qu'en fait, ça permet... une énorme liberté. Or, quand on découvre un nouveau monde, on est comme un nouveau-né découvrant un monde nouveau. Et les nouveaux-nés, les premières choses qu'ils font, c'est d'abord d'apprendre à servir de leur propre corps, de leurs propres membres, et ensuite de jouer avec le monde pour en comprendre les limites, la physique, etc. L'avantage du scénar solo, c'est que comme on est seul à jouer, on a une liberté qui est immense. Quand on est avec un groupe de joueurs, comme on sait, hein, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence, donc du coup on se heurte aussi à la liberté des autres. Donc l'avantage de commencer Sens Néant par un solo, c'est qu'on a beaucoup plus de liberté, donc beaucoup plus de choses que l'on peut éprouver, et ce faisant, beaucoup plus de choses que l'on apprend. Donc voilà, je pense que tout ça s'explique de cette manière-là. Voilà un petit résumé. Shadow.
Alors donc, en réponse à ceux qui auraient un petit peu peur du coup de... Du mantis, etc., je propose de peut-être laisser une partie un petit peu dans le flou, parce que finalement, même si c'est compliqué, ça m'a servi pour la suite, pour qu'ils comprennent mieux quand même l'univers. Mais voilà, l'anthropomorphisme n'est pas là pour rien, il ne faut pas avoir peur de trancher un moment ou un autre.
Tout à fait.
Et puis, les scénars solo, c'est aussi quelque chose qui me faisait peur, parce que même si c'est fortement conseillé dans Mort, et voilà, moi j'avais beaucoup de mal à en faire. Voilà, c'est pas mon truc d'être en face d'un seul joueur et puis faire du RP, etc. Pourtant, dans Néant, j'ai senti un petit peu ce besoin. Donc pour chaque création de personnage, bien sûr, j'ai présenté l'univers à tous mes joueurs, mais après, même pour les écoles, etc., j'ai présenté qu'à un seul joueur. Déjà, ça l'oblige à écouter, à bien cerner son école, à bien comprendre comment on prend en main son personnage. Et puis après, le scénario solo, je ne l'ai pas fait en mode RP, vas-y, on est dans l'univers et on se déplace. Non, c'est vraiment en mode didacticiel. On prend les rituels et puis je te fais un scénario qui va prendre chaque rituel, qui va t'obliger à regarder ta feuille et à dire, bon, bah voilà, pour m'en sortir, du coup, je vais prendre ce rituel-là. Et même certains, en fait, j'explique les premiers. 2, 3, 4 premiers, et puis après je n'explique plus rien, je le laisse devant sa fiche, et il va être force de proposition en me disant bah, « est-ce que je peux pas utiliser celui-là » Et voilà, et en fait il va prendre en main l'univers. Donc vraiment moi je le vois, ce premier scénario, comme un didacticiel pour chaque joueur. Voilà comment je l'ai fait. Du coup on a fait peu de RP, mais on a fait une vraie prise en main de l'univers.
Ouais, c'est tellement cool de découvrir les rituels comme ça.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Et même en tant que MJ, si le joueur il le voit pas, tu peux l'orienter avec un classique qui dit juste peut-être que le golem aurait pu utiliser un rituel de lecture sentimentale.
Exactement.
Et
lit plusieurs temps avant de comprendre qu'il devait utiliser le rituel de lecture sentimentale.
Ce genre de choses.
Lorsqu'il en usa.
Et au début, tu fais ça, et là, il fait « Ah, d'accord », il se rend compte de ce que... Comme ça, il a sa petite scène, il se rend compte de à quoi sert chaque rituel. Et d'ailleurs, après, c'est freestyle, quoi. C'est
libre. Pardon.
Pour provoquer le premier échange avec les joueurs, parce que c'est bien de faire ce petit scénario perso de chacun dans son coin, mais après on reprend la table, on reprend tout le monde, et soit on part direct dans une histoire, voilà. Enfin bon, bref, moi j'ai préféré créer un premier échange avec mes joueurs sur l'univers. Donc j'ai pris Azilis. Enfin, Azilis est venu chercher le golem à la fin de ce petit didacticiel, l'a emmené dans ses jardins et lui a proposé de forger son premier être. Au départ, une flaque de boue, de lui donner un premier lien, de faire un premier myriadien évoluer. Et puis chaque golem dans son coin, hein, il savait pas qu'il le faisait tous, sont venus forger le même être en fait. Finalement, le premier a créé un moustique, puis le deuxième une chauve-souris, puis le troisième. Enfin voilà. Et donc ils ont créé une chimère à eux tous. Et du coup, on commence la partie dans le jardin avec la chimère. Et chacun va dire... Enfin, le premier va dire « Ah tiens, ça c'est moi qui l'ai forgé. Ah mais attends, mais celui qui avait avant, c'était moi. » Et puis hop, voilà, créer le premier échange en fait.
Ah putain, c'est trop bien. Tu leur as pas dit. C'est-à-dire que dans chaque scénar solo, il passait et il
découvrait ce que l'autre avait laissé en fait.
Ah, c'est
exactement.
Génial.
Et il partait en fait de ce que l'autre avait fait. Voilà, c'est ça.
Ah putain, c'est génial ça. C'est
et du coup, ça crée le premier échange, le premier lien entre eux parce que... Et là, je vais
aller. C'est tellement beau quand tu vas le briser.
La problématique suivante, c'est que, admettons qu'on soit OK avec l'univers, on l'a bien pris en main, on a les informations, on est prêt à commencer sa partie, on lance l'aventure, et on s'aperçoit que les joueurs, ils n'ont pas d'objectif. Ils en ont mis sur leur fiche. En soi, oui, peut-être qu'ils veulent combattre dans l'arène, etc., mais... Ils ne sont pas investis d'une mission, même s'ils doivent protéger Azilis, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore de vrais liens. Ils ont des liens sur leur fiche, mais l'univers, ils ne l'ont pas. Il y a, comme tu disais, le name dropping. Et mais c'est ce qu'il faut faire en début de partie. Hein. Moi, au début, je leur ai dit, on s'en moque, venez. Voilà. Hop, je les prends par la main, je les emmène à un endroit, je les fais rencontrer des PNJ. Ils ont du mal à échanger avec eux, ils ne savent pas trop où ils vont, enfin voilà. Sauf que quand on revient dans cette ville ou dans ce village ou à Mogosh, là, en fait, ils ont des noms en tête. Moi, je vais voir un tel. Moi, je demande à machin. Et hop, là, tac, on commence à avoir l'émulation de néant.
Ouais, c'est la plus grosse difficulté de ce jeu pour moi. C'est qu'on leur dit, alors voilà, il faut te lier à plein de gens, il faut te lier. Et ils sont là, mais attends, je connais.
Je les connais pas.
Je connais personne. Moi, tu m'as juste balancé des noms, tu m'as juste raconté un texte. Je les connais pas.
Tu m'as parlé de problématiques, mais elles ne me touchent pas. Quoi.
Voilà, et qu'est-ce que tu veux que je foute avec ? Moi, j'aimerais juste explorer, quoi. Je voudrais juste découvrir ce monde. Et tu me demandes de me lier à tout le monde, genre, wow, doucement. Et ça, rien qu'à la création de la fiche de perso, il y en a, ils bug. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre comme lien ? Je ne vois pas, quoi. Je ne connais personne dans ce monde, je ne sais pas ce qui...
C'est pour ça que moi, je commence toujours par faire à mes joueurs une lecture quasiment totale de leur école de foi. De leur dire, voilà, il y a tel maître irritant, ton Nutrima, c'est un tel. C'est très laborieux, c'est très long, ça va prendre une bonne heure de lecture ou de discussion, on va dire, plutôt de discussion. Mais au moins, comme ça, il a des noms, il se dit, ah ouais, je trouve que ce personnage-là, il est classe. Allez, tiens, je me lie à lui, c'est mon maître, j'ai appris la lire auprès de lui, j'ai appris ceci auprès de lui. Je pense à ça parce que le dernier perso que j'ai créé, c'était un perso de l'air. Voilà, c'est vachement important qu'il ait au moins son école de foi en tête et justement lorsqu'il va arriver au royaume d'Azilis, il aura cette sensation ne connaît que son école et qu'il n'a jamais connu que son école. Et donc il a la sensation de découvrir depuis le point de vue de son école les éléments. Par contre, je suis d'accord avec vous que par rapport à Mogosh, la ville de Mogosh, il leur faut très très rapidement un scénar pour se faire des attaches à Mogosh et comprendre, bah oui, on est gardien depuis longtemps et on connaît tout le monde, etc. Ça, je suis d'accord.
Pour moi, faire des scènes avec Azilis comme tu l'as fait, c'est optimal. Parce que pour moi, leur lien à Mogosh, c'est Pulsar, Savané, Azilis, oui. Et ils quittent pas le palais. Oui, et moi, tous mes joueurs, c'est tout le temps, je prends son Azilis, certains ça va être dans l'ombre, certains ça va être en allant entretenir le jardin.
La forêt aussi, visiter la forêt, c'est intéressant.
Et chacun se trouve très vite son rôle et il se complaît dedans. C'est-à-dire que pour eux,
envie de jouer, quoi.
Voilà, ils sont pas là pour...
ça y est, j'ai envie de jouer. C'est terrible.
Et ouais, non, ils sont clairement pas là pour s'amuser à Mogosh, quoi, et pour tisser des liens. Pour moi, à Mogosh, ils sont investis d'une mission. Et du coup, le fait qu'ils soient investis de cette mission très vite, ça fait que les scénars, les missions, ils les acceptent. C'est genre, on doit protéger Azilis, nickel, ok, on y va. Si c'est pour aider Azilis, on est chaud.
Manu, tu voulais ajouter des choses?
Ouais, moi j'ai quand même pris le temps, alors, pour des raisons très, très nombreuses et variées, j'ai eu beaucoup de temps entre le moment où je leur ai présenté la prémisse de l'univers, c'est-à-dire vraiment la toute fin de mort, et puis le moment où on a vraiment commencé à jouer. Et donc, je leur ai passé pas mal de trucs par forum sur écrit en disant, faites pas de choix pour le moment, mais regardez ce qui vous plaît. Donc, j'aurais fait des descriptions environ tout ce qui était un peu litigieux, les descriptions des écoles, pas tous les maîtres, parce que je voulais pas justement en lâcher trop à l'ensemble des joueurs, mais pour qu'ils puissent avant ça se faire quand même une idée des différentes écoles, des différentes esthétiques et choisir aussi par rapport à ça. Je pense que ça les a pas mal aidés quand même d'avoir un truc écrit auquel se référer pendant 3 mois.
Ouais.
6.
Shadow.
Alors, pour ce qui est de la description des écoles, j'ai décrit sommairement toutes les écoles à tous mes joueurs.
Ouais.
Et pour qu'ils puissent faire un premier choix.
Un choix.
Voilà, au moins expliquer ce. Enfin, voilà le.
Alors, moi, ce que je fais, c'est que je commence juste par les sentiments en général. Je commence juste par les sentiments. Tout à fait. Ouais. Mais toi, t'as fait toutes les descriptions.
Ça. Non, j'ai pas fait les descriptions physiques. On parle bien effectivement des sentiments, un petit peu d'une politique de chaque école, mais sans rentrer dans les détails. Et ensuite, quand les joueurs ont eu choisi. Hop, scénar solo, je te présente toute l'école, les maîtres héritants, l'utrima, en ellipsant certaines choses parce qu'il faut faire attention tout de même. Et de là, en fait, mon idée profonde, c'était de dire, tu vois, l'école du feu, il n'y a que toi qui vas la connaître. Donc, à un moment, quand on en parlera, tu auras deux solutions. Soit tu vas te rappeler de tout ça et puis c'est toi qui en parleras aux autres sétantras. Donc voilà, ça va créer de l'échange, avoir l'impression aussi d'appartenir à quelque chose. Soit tu devras vider la petite coupelle de Classis et dire « Mais Classis, je ne le connais pas, lui. » Enfin voilà, il y a aussi...
T'as pas besoin de vider la coupelle de Classis. Tu donnes un point d'immersion pour le faire, pour interrompre Classis, il me semble. Non, c'est gratuit d'ailleurs. Non, c'est gratuit.
J'ai jamais vu cette règle, moi.
Tu peux interrompre la narration de Classis en disant... Si,
à partir du moment où c'est le bug qui parle et que ce n'est plus le Sétantra, c'est le choix de dire soit je m'en rappelle plus et tant pis, on passe à côté d'une information, soit si je veux l'info, je parle à Classis et en parlant à Classis,
pour moi, il fait juste un symbole temps mort et il dit Ah merde, Classis, je suis désolé, j'ai oublié ça.
Ouais, c'est ça.
Alors, dans les faits, le plus souvent, c'est ce qui se passait.
C'est ça.
Ouais, mais
la règle officielle, c'est celle que tu
as dit. Il n'y a pas de punition pour moi. C'est justement Classis, il dit attends, c'est la première fois.
Il n'y a pas de punition.
Je sais pourquoi tu penses. Tu n'avais pas joué avec moi avant.
Si, tout à fait.
Si, parce qu'au cours des playtests, on avait playtesté une version du jeu dans laquelle on perdait un point d'immersion pour interrompre Classis.
C'est ça.
Et donc, du coup, tu avais dû retenir.
C'est pas dans le bouquin officiel.
C'est pas dans le bouquin officiel. Alors juste un point par rapport à tout ce que tu disais et puis c'est que moi j'avais prévu le jeu comme étant extrêmement incitant vraiment les joueurs à la créativité de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voulais, c'est que les joueurs, alors qu'ils sont en train de faire leur roleplay, de parler par rapport à l'école du feu, ils disent, mais c'est vrai que j'aurais dû le mettre dans la base ça. Ils inventent des choses sur l'école du feu. Tu vois, ils inventent des personnages, ils inventent des lieux, ils inventent des méthodes de transport, etc. Et que le maître de jeu, il note, il dit « Ok ». Puisqu'il a l'autorité sur l'école, puisque c'est lui qui en vient, c'est bon, quoi. Je mets tout ça. Par contre, chaque fois qu'il le fait, il doit mettre des liens par rapport à ça sur sa fiche. Tu vois ? C'est-à-dire que s'il dit « Ah, j'ai connu un sétentrien à l'école de feu qui adorait la Ségapante et qui s'appelait, par exemple, Fournaise », tac, il note « lien à Fournaise », machin truc. S'il s'en souvient, c'est qu'a priori, il a un lien avec. Donc du coup, moi, mon idée, c'était ça, c'était de favoriser la création. D'où d'ailleurs... un principe dont on n'a pas parlé dans ce podcast, mais qui est très important pour ça, c'est les points d'expérience que l'on se répartit en cours de jeu.
Tout à fait.
Tu as 12 pecs que tu vas pouvoir répartir au cours du jeu. Donc si à un moment donné, tu dis « Tiens, ce serait cool que je connaisse un tel ou ce serait cool que je sois lié à un tel », hop, je dépense mon petit point d'expérience, je me fais un lien à 1 avec Fournaise, c'est pas grand-chose, et hop, je me souviens que Fournaise, c'est un mec qui vend de la Ségapante, etc. Donc en fait, on a presque... j'ai pas envie de dire de la narration partagée parce que c'est vraiment pas ça sens, mais on a des espèces de dynamique de création comme ça d'univers par les personnages. Et le jeu te propose de faire ça à tel point que lorsque tu as un PNJ qui est lié à toi au-delà d'un certain seuil, on considère même que le joueur peut le jouer. Que le golem lui-même peut le jouer.
Ça donne... quand t'es apprivoisé.
Quand t'es apprivoisé, exactement. Par exemple, on avait une scène comme ça dans un scénar où Flavie avait été emprisonnée par certains méchants. Bon, je ne dirais pas qui, parce que peut-être que je vous la ferai la campagne. Et elle ne pouvait plus jouer, du coup, puisqu'elle était emprisonnée. Mais du coup, elle jouait par l'intermédiaire de son arme, qui, elle, était restée avec les PJ. Ça, c'est super, quoi. Ça permet de faire des scènes sympas. Après, dans la base, il me semble que c'est bien écrit que quand les deux personnes sont dans la même scène... il ne faut pas que les joueurs puissent le faire. Sinon, ça donne trop de dialogue avec soi-même. parce qu'on l'avait testé avec Karim. Une fois, Karim avait fait un personnage qui disposait d'une couronne avec, qui s'appelait Oberon, d'ailleurs, la couronne, je crois bien, et avec laquelle il parlait. Et en fait, c'est chiant parce que du coup, il parle, il fait jouer sa couronne, il fait jouer son personnage, on savait plus qui parlait. Parfois, il parlait tout seul.
Et puis, même les PJ préfèrent quand c'est toi qui les interprète. Moi, je leur dis, ça, vous me dites s'il y a un problème dans mon interprétation, mais c'est moi qui l'interprète quand, quand vous êtes ensemble. Quoi.
Ouais, sinon, il ressemble à MJ de Sens qui parle tout seul, qui a plein de voix de personnage.
Or, il y a déjà un MJ de Sens, donc voilà. Shadow, donc, par rapport à ça, voilà, c'est, moi, je voulais que ça, ça invite à la créativité, le fait qu'ils soient justement les seuls à maîtriser leur
école. D'accord, je n'avais pas dans vu les, la création faits, de cette
ça...
façon, et du coup, quand on échange comme ça, on a toujours envie de revenir en arrière et dire, ah, si seulement j'avais...
Non, parce que toutes les méthodes sont bonnes. Y a
tout
pas,
à fait. Voilà. Oui, bon, ça s'est bien passé. Et justement, ça s'est bien passé.
Tant qu'on respecte les règles.
C'est-à-dire que j'avais peur et finalement, finalement, les joueurs... Alors, j'ai été obligé... Je vais revenir sur le fait d'avoir peur de maîtriser sens ou d'avoir une appréhension, en tout cas. J'ai été obligé, en tant que classiste, de dire au bug, ne vous inquiétez pas. Les choses vont se mettre en place, vous verrez, laissez couler. Aussi parce que les bugs, enfin les joueurs jouent leurs bugs en se disant « Ouais, moi j'ai un petit peu, enfin mon bug a un petit peu de mal à rentrer dans l'univers. » Donc Classis est obligé d'avoir ce discours-là, de les rassurer, de leur dire « Vous verrez, tout prendra un sens, etc. Ouais. » Mais aussi en tant que MJ, par rapport à mes propres joueurs, de leur dire « Laissez couler. » Ça va venir. Pour l'instant, l'univers, vous le découvrez, et quand vous l'aurez découvert, on verra ce qui va se passer. Ça a été important, ça, en fait. J'ai pas pu laisser le jeu couler tout seul. Il a fallu prendre un petit peu de temps pour leur dire, enfin,
d'accord,
pour les rassurer. Alors après, je suis peut-être le seul, hein. Mais je...
Ah non, non, non. Tout le monde, en fait, je crois.
Qu'il aura fallu, il aura fallu du temps. De quoi, pardon.
Mais même en dehors des parties, devoir dire à mes joueurs
vous en faites pas,
même si pour l'instant c'est un peu difficile, ça viendra. En fait, me justifier régulièrement en dehors des parties, quoi. Vraiment, j'étais obligé.
Oui, je suis entièrement d'accord. Non, il faut. Enfin, c'est normal. Il y a toujours des joueurs pour qui c'est un peu chaud au début et il faut leur dire no stress à venir. Alors après. Dans ces cas-là, il faut jamais oublier, on l'a déjà dit plusieurs fois dans les podcasts de Sens Néant, mais si vous pouvez le faire, prenez le temps pour Néant. N'essayez pas de faire des marathons Sens Néant, en tout cas pas dès le début. Je veux dire, si vous pourrez pas en un week-end, enfin ça me paraît horrible en un week-end de leur montrer l'univers, créer les persos, faire les scénars et avancer dans l'histoire super vite. Ouais. C'est, on le sait, hein, Morgane, on a déjà fait un podcast là-dessus. Morgane, elle a dû le faire et ça a fait que les joueurs n'ont pas eu ce temps d'adaptation nécessaire pour rentrer dans l'univers. Et il y en a, ça s'est transformé non pas en juste j'ai du mal, mais en rejet. Parce qu'on essaie de les forcer à rentrer dedans et d'aller très vite dans l'histoire. Et ça peut créer un phénomène de rejet, c'est comme une mauvaise greffe. Et du coup, il faut y aller doucement, il faut laisser le temps au temps, il faut papillonner. Donc n'oubliez pas que c'est pas parce qu'il y a quelques scénars dans la base qu'il faut les faire. Genre, avant même le scénar 1, vous pouvez faire une vingtaine, une centaine de scénars sans papillon. Après le scénar 1 dans la base, avant le scénar 2, donc vous pouvez encore en faire des dizaines. Prenez le temps, quoi.
D'autant plus qu'il y a des villes et des lieux qui sont écrits dans la base.
Et qui ne sont pas utilisés.
Et qui ne sont absolument pas utilisés dans la campagne. Il y en a plein, plein, plein. Donc ça veut dire que le jeu le prévoit aussi, tu vois.
Et puis il y a aussi des dizaines de lieux qu'on peut inventer. Faut se lâcher, quoi. Le monde, il est gigantesque. Faut s'imaginer. Moi, je m'imagine que les Sétentras, des fois, il y a juste des villages avec 4 Sétentras d'Imyriadiens.
C'est ça.
Et voilà, ça fait un village qui est en guerre avec le village d'à côté, en plein milieu d'une forêt. Et puis,
j'ai envie de jouer, putain. C'est terrible. Donc, tu dis, Manu, tu voulais intervenir.
Non, pas trop.
Tu disais, Shadow, justement, ça s'est bien passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je vais imager ça par... Enfin, tu parlais de marathon. En fait, au début, j'ai fait le choix de faire des scénarios assez linéaires pour leur faire découvrir l'univers. Et je suis allé assez vite. Finalement, les intrigues étaient des prétextes à se promener, à découvrir les premiers lieux. Voilà. Enfin, voilà. C'était l'idée. Donc, on est allé assez vite. Après, on a pris le temps. Donc là, une fois qu'ils ont eu bien l'univers en main, on a pris le temps de faire des scénarios tels l'alchimiste de Fabien Invine, qui est assez... qui permet de vraiment se rendre compte de la profondeur de l'univers.
Ouais, il rend les
mais
choses
avant
sérieuses,
ça,
quoi.
Voilà, avant ça, il faut quand même se balader un petit peu à plusieurs endroits pour comprendre un petit peu ce scénario-là. Et il s'avère qu'au bout d'un moment, on avance on fait de plus en plus de scénarios, on avance dans la campagne. Et j'avais proposé à mes joueurs, si à un moment vous avez envie de découvrir vraiment l'intrigue. Parce que voilà, ça faisait partie du contrat social. C'est moi, je vais vous faire découvrir une myriade. Et quand vous pensez que vous l'avez assez découvert, on rentre dans l'intrigue. Donc entre le scénario 1 et 2. Voilà. Ils avaient quelques bases, ils sentaient quelque chose qui se tramait, mais voilà. Et donc au bout d'un moment, ils m'ont dit, bon bah allez, c'est bon, on y va, on a compris. Et puis...
Ils l'ont regretté.
Et puis... ben non, mais les scénarios, voilà, se sont enchaînés et on était parti du fait que... Parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'apprécier l'univers. Ils étaient encore, sur la tangente. Enfin, voilà, ils ne savaient pas trop. Et je leur ai dit, bah écoutez, sinon, là, on se fait un gros marathon. Et puis, maintenant qu'on a découvert l'univers, et ben maintenant, on va résoudre l'intrigue de fond.
Voilà.
On va découvrir tous les secrets, on avance, on se fait le marathon et tac, comme ça, on a tout fait. On dit, ok, pas de problème, ça nous va, c'est bon. Et puis, le marathon avançant, au bout d'un moment, aux deux tiers du marathon, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait parmi mes joueurs. Et puis, ils m'ont dit, non, mais en fait, on s'arrête. On veut en savoir plus.
En fait, c'était
plus.
Bien avant.
Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas la peur de l'intrigue, parce qu'au contraire, ils aimeraient avoir les réponses, mais ils me disent, oh, mais non, on arrive à la fin, mais moi, ouais, je veux pas que ça se finisse. Ah, en fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Il y a des écoles, on n'a pas eu le temps de vraiment les explorer. Allez, viens, on dit qu'on fait une pause. Dans le marathon. Et c'était juste avant ce podcast, justement. Donc voilà, là, je suis en pause de marathon et on va reprendre. Il va falloir que je refasse des scénarios et on va reprendre le temps de faire Néant. Comme quoi, ouais, ça marche, quoi.
Ouais.
Que finalement, on a beau avoir peur, ça marche.
Je parie que dans quelques années, quand il y aura plein de tables qui auront fini tout le jeu, il y a plein de tables qui vont se former pour faire du Néant.
Ah, j'en suis sûr et certain.
C'est monstrueux ce qu'on fait de les arracher à cet univers en disant « Ah ben non, c'est fini. »
ça sera la victoire finale de Classis.
moi, en plus, ça leur a foutu bien les jetons parce que c'était genre, à un moment, ils étaient là « Ouais, bon, allez, là, quand même, il s'est pas passé grand-chose. » En fait, c'est quand on a enchaîné deux scénarios, parce qu'ils étaient tellement chauds. Ils étaient là, on a fait un petit scénar, après ils étaient là, ah, vas-y, on enchaîne, on est chaud. Mais là, bim, sans les prévenir, c'était salaud en termes de contrat social. Mais bim, j'ai balancé le scénar 2 de la base. Et là, ils étaient là.
Blâme.
C'est exactement
ce qu'il faut
faire. La chape de plomb quand le convoi arrive funéraire, là.
Ouais, le convoi funéraire et surtout la fin du scénar. Avec,
oui, enfin tout. Fin,
là, ils étaient là. Oh putain.
La base, enfin, on va dire que le scénario de la base commence par la mort d'un des mentors.
Et puis se termine par la mort, entre grosses guillemets, d'un autre, quoi.
Soyons sympas.
Donc, et là, il y a mes joueurs, je leur ai dit, avec Classis, avec ce petit air, je leur ai fait.
Vous croyez que alors, sans mort était terminé?
Je leur ai dit, je suis désolé, mais il faut que l'histoire avance. Et je leur ai dit, vous en avez pensé quoi? Ils m'ont fait. Classis, pas de débrief, on a pas assez de recul. Et on n'a pas débriefé, c'est une des rares parties qu'on n'a pas débriefé. Ils m'ont dit je peux pas là, je peux pas.
Tu sens arriver le lien aussi dans ce premier scénar avec l'autre sens en fait.
Exactement, c'est là où j'allais faire cette transition là, c'est qu'en fait les joueurs se sont vraiment appropriés l'univers et se sont vraiment sentis liés à tout ça quand la métaphysique de sens vient se mêler à l'univers de Myriad. Parce qu'en fait, au début, certes, il y a le cadran, certes, il y a des petits liens, des noms, mais on ne voit pas la résonance. Et quand, on va même plus loin, je ne sais pas si on peut spoiler, oui, je pense que ce sont des MJ qui ont écouté, donc ils l'ont lu, sans ce néant.
On a été beaucoup plus loin dans le spoil.
Donc même la mort du personnage, on peut dire qui c'est. Oui,
tout à fait, vas-y, lance tout. De toute façon, on va balancer à fond, puisqu'on va parler métaphysique après.
Voilà, et quand on a déjà... Alors même la mort, enfin, pas la mort d'Azilis, mais voilà, cette suspension d'Azilis, à la limite, c'est pas vraiment ce qui a déclenché. Moi, c'est vraiment à partir du moment où Azilis était enceinte et qu'elle a accouché de petits humains. Et puis qu'elle commençait à avoir ses fentes sur les yeux, qu'ils ont fait ce premier voyage dans le rêve d'Azilis. Enfin là, mes joueurs ont commencé à relier le sens qu'ils connaissaient, renaissance, mort et toute la métaphysique avec cet univers-là. Ils commençaient à se dire, mais si Classis nous fait jouer ça, c'est qu'il y a un lien, et tac, ça commence à échafauder des choses, et etc. Et là, en fait, c'était l'explosion, et c'est là où ils se sont dit, on en veut plus. Enfin, vraiment, c'est ces moments-là. Donc, je regrette pas d'avoir fait ce marathon et d'être arrivé jusque-là et qu'il m'ait dit non, stop, on va avoir le temps d'y réfléchir.
Quoi. Ah, c'est le moment où ma boîte mail a commencé à exploser de discussions de PJ entre eux.
Oui, c'est ça.
Là, c'est le moment où ils sont là. Ah oh, putain, mais en fait, les enfants d'Azilis, il y a plusieurs solutions, ça peut être ça, ça, ça. Puis, en fait, si ça se trouve, les quadrillades Cosmo, et puis si en fait, ça se trouve.
Et puis le cadran, en fait.
Le cadran, en fait, voilà, si ça se trouve. Et puis, et là, alors là, c'est, là, il y a au moins une bonne semaine où tu sais qu'ils vont vivre sens. Ils vont vivre dans sens pendant au moins une bonne semaine.
C'est
là,
ça, c'est ça, complètement.
C'est curieux que ça attende ce moment-là quand même. Mais il me semble qu'à partir du moment où ils vont dans le palais de Mogoche, qu'ils voient le cadran, enfin, ils doivent commencer
oui,
à se poser des questions.
Oui, mais ils n'ont pas assez d'informations pour faire des liens.
Questions et pas de pistes, voilà.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont des infos, ils savent pas trop quoi en faire. Alors pour l'instant, ils les accumulent dans une petite besace. Voilà, ils les gardent de côté en attendant d'avoir plus d'informations.
Au sens propre. Hein.
Voilà.
Parce que ce sont des septentrions et que les informations s'accumulent dans des petites besaces, si on veut.
Ouais, ouais, c'est vrai. Et même ils savent pas trop quoi faire de la bibliothèque de miroir par exemple, où il y a énormément d'informations, donc c'est cool, ils s'amusent à voir ces artefacts, etc. Mais là maintenant, la chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'y retourner, quoi. De se dire oh, il doit y avoir tellement de choses là-bas qui permettent de faire le lien. Alors c'est plus le
ils
joueur
enquêtent. En fait c'est en mode enquête et des ouais, secrets maintenant.
Des secrets, c'est ça.
Et là, mais... et là avec le spec, c'est-à-dire la capacité à soulever les voiles de Mantis pour aller plus profond dans les sentiments.
Ah bah là ils vont aller
là,
chercher.
Là ils doivent être fous, quoi.
Et oui, c'est ça, là ils attendent, parce que là on est dans la partie où justement c'est complètement bac à sable, ils ont à l'Alysée, enfin on est à la FF7, on va où on veut, on fait ce qu'on veut.
C'est ça.
Et
avec
et voilà.
Un vaisseau volant comme
voilà,
c'est vraiment l'Alysée.
Alors moi je l'ai appelé l'aéronef, hein, parce qu'honnêtement, Alysée, ça passe pas, quoi.
T'as un problème culturel avec
ouais, voilà. Mais, non, mais disons qu'en fait, il y a un de mes joueurs, il voulait appeler son arme Alysée au début.
Ah,
et
oui,
les
d'accord.
Autres joueurs de la table ont fait non, mais veto, sinon on va être obligé de chantonner à chaque fois que tu
ah,
utilises
d'accord.
Ton arme.
Ouais, donc du coup.
Et du coup, on a changé le nom.
En fait, c'est juste que vous le savez, hein, dans Sens Néant, il y a beaucoup de jeux de mots par rapport aux proximités des sons, entre les mentors, le menteur, les maîtres héritants, les maîtres hésitants, les ultimas, les ultrimas.
Hésitants, il n'y a pas.
La...
méritants et
héritants.
Méritants.
Oui, mais.
Je suis en train de chercher.
C'est les nôtres, les hésitants.
Les méritants, les héritants. Et donc, il y a aussi cette proximité entre l'Alysée et Azilis. Et c'est pas un hasard.
Moi, j'ai créé
désolé, je rebondis sur ce que vient de dire Emmanuel, c'est les nôtres et les maîtres hésitants. Et je crois que je vais faire commencer... Enfin, je crois que les Myriadiens vont commencer à appeler les golems ainsi. Je trouve ça très très beau, les maîtres ouais, hésitants.
Les maîtres hésitants.
Comme s'ils avaient vraiment des choix cruciaux à faire.
Ouais.
Et c'est une très bonne idée. Ça. Non, il y a un truc,
ouais,
y a un truc à faire avec.
Droit d'auteur là.
Ah, par contre, ouais, petite question.
Désolé, du coup, j'ai coupé.
J'aurais pu la poser en off. Je suis désolé, ça n'a peut-être rien à faire dans le podcast. Mais vous en mettez combien des enfants d'Azilis, vous? Est-ce que vous en mettez une
et justement, j'en ai, on en a parlé.
La question,
ils sont,
ouais.
Et c'est bien noté dans la base, ils sont innombrables.
Moi, j'en ai. Moi,
il n'y en a pas peu ou beaucoup.
Moi, j'en ai mis le nombre de PJ.
Innombrables.
Moi, j'en ai mis le nombre de PJ.
Non.
Ah,
non,
parce
c'est
que. Enfin, après, ça, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, ces êtres-là, ces enfants,
mais
ce sont les bugs.
Nombre de PJ, ça marche aussi. Hein.
Oui.
Parce que ton nombre de PJ, il est innombrable, Maxime.
Pour l'instant.
Juste pour dire que si tu dis ça.
Mais c'est trop perturbant pour les gens. Moi, dire innombrable, ça les aurait sortis de l'image, ça les aurait sortis du jeu, je
mais
le sais.
Mais non,
de toute façon, moi, j'en ai fait une multitude. Parce que c'est un choix que j'ai fait dans le sens. Moi, je leur ai dit innombrable, mais ils sont non. Enfin. Quand à chaque fois. J'ai jamais dit
important.
Autre chose qu'innombrable, mais je faisais des gestes. Je faisais. Des situations où ils avaient l'impression qu'il y en avait beaucoup quand même, mais sans trop savoir combien, mais beaucoup. Parce que je pense que là, c'est un choix. Soit tu estimes que c'est ta table, voilà, soit tu estimes que c'est tous les joueurs potentiels que tu auras, puisque ce sont les bugs, soit en fait, c'est tous les PJ de toutes les tables. Moi, je suis parti plutôt de ce point de vue-là. Donc pour moi, il y en avait beaucoup, mais dire combien...
Non, moi, parce que je l'ai joué avec Fabien Hidvaline la première fois, et il en avait mis deux parce qu'on était deux joueurs, et ça crée un amour tout de suite pour les deux, qui était tellement représentatif du fait que les Isantras, c'est leur répléoïde. Le fait qu'ils en aient chacun un, c'était trop beau. Alors que moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'une scène où à la fin, t'as trois golems, il y a 8000 enfants, et chacun, ils en prennent juste un au pif, genre, et on le protège. Moi, j'aime trop l'idée qu'il y ait eu
Mais pourquoi en prendre qu'un? Et pourquoi tu ne peux pas donner...
Cet entra, c'est une armure, c'est pas, il peut pas en protéger 8000 pour moi. Il peut
bah, ça soutient, ça soutient ta thèse.
Alors,
Maxime.
Pour moi, une répliéoïde, c'est un golem.
Je vais te répondre... ah, parce que tu... D'accord.
Toi, un golem, ça peut être plusieurs répliéoïdes, c'est ça?
Pour moi, en fait, ils sauvent les... Enfin, ils sauveront, parce que je n'en suis pas encore là. Ils les sauveront tous, mais ils ne vont pas en prendre qu'un. Ils vont les sauver, les emmener aux autres. Enfin, ils vont juste les emmener dans une autre fiction. Mais
Shadow, je crois que tu en sais plus, comment dire, que Maxime sur ses enfants.
Ah.
Ben oui.
Moi, je sais qu'il y a deux possibilités.
Toi, t'as fait le playtest avec moi, et je pense que j'ai dû vous faire la fin de la première version de Sensei.
D'accord. Donc bon, bah, je vais pas du coup.
Non, mais on peut le dire, sinon c'est dégueulasse. On va pas le cacher.
Non, mais non, c'est à moi ce secret, c'est le mien.
Ah, j'allais dire, ouais, vous êtes mignon, quoi. Déjà qu'on n'en sait pas assez avec ces bouquins, quoi. Si les podcasts, c'est
certain. Non, mais bien version, sûr, mais je savais pas en fait.
Dans la première version playtest de Sens Néant, les enfants d'Asilis, ce n'étaient pas les armures, c'était nous, Maxime, Shadow, Emmanuel, Romaric.
Donc du coup, on est innombrables.
Oui, enfin, les enfants d'Alésilise. On est d'accord, mais les golems. Pour moi, les golems, c'est les armures.
Ah donc
armures.
Lui, c'est à lui. Ok, très bien.
Non, pour moi, les golems, par contre, c'est les armures.
D'accord.
Un golem égale une armure.
Oui, ah oui, on est d'accord.
Et du coup, un golem protège un enfant.
Ah, oh, d'accord, oui, c'est voilà. Le symbole du golem.
C'est le symbole protège. À la fin du golem qui, à la fin de Sensei, va prendre le bébé à lui et va se fondre autour de lui pour devenir sa répliorite.
Maintenant, je te rappelle. Qu'il n'y a pas que 4 golems ou 5 golems sur Myriad.
Non, il y en a 12, il y en a 18.
Il y en a plein. Ils sont aussi innombrables.
Oui, mais pour créer de la tâche de mes joueurs à ces enfants, alors, je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit hors jeu, je leur ai dit, il y aurait pu en avoir d'autres, il n'aurait pu en avoir. Je leur ai dit, dans le bouquin, il y a marqué innombrables, mais moi, je vous en ai mis que 3.
Et okay. On sent un attachement profond de Maxime, en fait, finalement, à la vérité historique. C'est-à-dire, en fait, indirectement, c'est ça que tu nous dis. C'est-à-dire, moi, pour moi, Classis, il raconte l'histoire de quelques golems.
Voilà.
Et il la raconte pour les bugs voilà. Qui sont
donc
là.
Pour moi, il y avait d'autres golems, mais on s'en fout.
Il y avait d'autres golems, il y en avait des milliers.
Voilà, il y a d'autres golems, mais on s'en fout. Ils m'ont dit, il y en a combien? Je dis, oh, 18, 20, 24, je sais pas trop. Ouais. Je ne dis pas les nombres au pif. Hein. Mais. et je dis, mais on s'en fiche. Eux, on s'en fout. Donc, quand il y a quelque chose à faire, vous leur faites ce que vous voulez. Mais ça ne m'intéresse pas. Et les enfants d'Asilis, pour moi, il y en a 3. Quoi. C'est, parce que c'est beau. Quoi.
Alors, en concernant l'amour qu'ils leur portent, je conçois tout à fait ce que tu dis. Et dans un autre registre, ils sont très nombreux, ils sont tout petits, ils ont l'air fragiles, ils viennent de naître. Et ces golems-là sont immenses à côté d'eux, ce sont des géants. Ils n'arrivent pas à communiquer avec eux. Pour moi, j'ai fait en sorte que quand ils essayent de parler avec eux, ben, ces êtres ne les perçoivent pas. Ils voient un mouvement de sol qui se fait, un courant d'air, une chaleur. Mais finalement, ils sont dans deux ontologies, enfin pas deux ontologies,
ah, oui, c'est ça, si,
différentes.
Si,
du coup, il y a un jeu qui se fait avec eux, on n'arrive pas à communiquer, donc du coup, on va trouver d'autres solutions. Et il y a une sorte d'attachement qui se fait à ces êtres qui semblent tellement fragiles, tellement... Enfin, ils sont petits, puis le fait qu'ils soient nombreux...
C'est quand même les enfants de la princesse... Enfin,
ouais, puis je les fais courir un petit peu de partout, ils ont l'air un petit peu perdus, ils se sentent obligés de les rassembler, de les mettre dans l'alizé, de leur créer un cocon. Enfin, moi, ils m'ont dit, on leur fait une petite source d'eau, on leur fait des petites maisons, enfin, on leur crée une sorte
micro.
On leur fait une sorte... Pardon, je parle beaucoup avec les mains. Et un petit écosystème, enfin, voilà, ils se lient avec eux d'une autre façon. Effectivement, s'il y en avait eu peu, je pense que ça aurait été différent, mais le fait qu'il y en ait beaucoup a créé une autre forme de protection.
Je pense que c'est un choix.
C'est un choix, voilà, tout à fait.
Après, je veux dire, il ne faut pas s'arrêter sur l'un ou sur l'autre. Enfin, s'il faut s'arrêter sur l'un ou sur l'autre, mais les deux sont...
Faites un choix, quoi.
Voilà, les deux sont possibles.
Le truc, c'est que... ce qu'il ne faut pas oublier aussi, pour bien comprendre l'attachement des golems à ses enfants, c'est que... habituellement, les golems ont l'habitude que lorsqu'un myriadien meurt, ils finissent par finir en morceaux. Il finit en morceaux, comme c'est le décrit dans le palanquin qui ramène Savan jusqu'à Mogosh. Il est en morceaux, il y a un perroquet, il y a des cristaux, il y a une amphore, il y a plein de trucs en bordel, des souvenirs en fait de Savan, parce qu'il a explosé, ses souvenirs se sont éparpillés dans le palanquin. Et Asilis, c'est un peu pareil. À ce moment-là, si on voulait le traduire de façon septentrienne, on dirait, mais elle est morte, et en fait, tout ça, ce sont les souvenirs, c'est la dernière chose qui nous reste. Il y a un aspect très tragique ces tantras, ces golems qui cherchent à protéger leur princesse, et en fait ils ne savent pas la limite de leur charge. C'est-à-dire qu'en fait on leur a dit vous devez protéger Azilis, mais ils savent pas jusqu'où ça va. Est-ce que ça va jusqu'à protéger le moindre de ses souvenirs? Et puis il y a cette question aussi de protéger. Est-ce que protéger c'est faire en sorte que la personne ne change pas? Et ça, c'est une problématique dont on ne parle pas souvent, c'est que la protection d'Azilis implique qu'elle soit une princesse de verre, une princesse de cristal, enfermée, qui ne change jamais, elle a le droit à aucun sentiment, etc. Est-ce que protéger quelqu'un, c'est vouloir qu'il ne lui arrive rien? On a une problématique qui est très proche de celle du monde de Nemo dans le Pixar.
Ils ont fait le choix très vite. Hein. Pour eux, la protéger, c'était la laisser vivre sa vie, quoi. Moi, ils faisaient tout pour la faire s'échapper de Mogoche en permanence. Ils passaient leur temps à sneaker discrètement, utiliser des golems, des entrées d'ombre et tombe. C'était évident, quoi. Et puis, surtout, ce qui protège après, c'est plus Azilis, c'est ses enfants. Et là, t'as le joueur qui prend part sur le golem, qui a bien compris que c'était des enfants. Et il transpose ça, pour moi, en amour, parce que Azilis passe sur leur temps à dire protéger mes enfants, protéger mes enfants. Ils comprennent pas trop ce qu'elle veut dire, mais du coup, quand ils arrivent, c'est évident, c'est eux les enfants d'Azilis. Et elle est là, leur nouvelle charge. S'ils aimaient Azilis, c'est ses enfants qui protégeront. Et c'est tout, quoi. Pas à se poser la question plus loin.
Moi, le protéger mes enfants a soulevé de nombreuses questions. Et je rappelle qu'en fait, Azilis, elle s'évapore. Enfin, elle disparaît. Elle ne s'évapore pas. Elle disparaît au moment où
la rune d'air
est absorbée. Donc, juste après la naissance des enfants. Enfin, c'est dans la même partie. Et se protéger mes enfants... Et rester un peu en suspens comme ça, sans avoir plus d'informations. Ils s'aperçoivent que ces petits êtres qui sont nés, on peut dire les enfants d'Azilis, mais je vais utiliser volontairement ces petits êtres. Quand ils naissent, ils absorbent ces tantras d'air. Ils commencent à boire myriade, à se nourrir de la terre.
Qui sont les enfants
qu'on doit protéger ? Et finalement, leur question, c'est quels sont les enfants qu'on doit protéger, quoi ? Et eux, pour l'instant, ils les protègent, mais ils ne savent pas qui sont les enfants qu'ils
doivent protéger. C'est la question finale de... Enfin, je veux dire, ils se posent cette question-là dès maintenant.
Ben oui.
C'est la question finale que pose le bouquin. Enfin, c'est la question finale que pose le jeu. C'est-à-dire,
et c'est toutes ces problématiques-là qui font qu'ils commencent à se dire « Ah, mais c'est... j'en veux plus de néant, quoi. Je veux aller plus loin.
» Et dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est la peur... de la métaphysique du jeu. C'est-à-dire, la dernière fois que tu es venu à la Saint-Malo, tu m'as dit, vous discutez tous, je me souviens, il y avait Fabien qui était là, il y avait plein de gens qui étaient très très experts, Maxime et Morgan, très experts de la métaphysique, Jérôme également, qui était Emmanuel et Adrien,
oui, tout à fait.
Qui étaient très experts de la métaphysique de sens, hein, et Natacha également. Et tu disais, mais mon Dieu, mais moi je ne comprends pas ce que vous me dites. Enfin, qui est la rune de création, qui est la rune de néant. Certains disaient que justement, Classis c'était peut-être la rune de néant, Azilis celle de la création, il y avait toute une théorie autour de ça. Je disais, non mais moi, après la lecture du bouquin, je ne comprends pas vos débats métaphysiques. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Alors deux choses pour expliquer ça. La première, c'est que déjà, moi, la métaphysique de sens, pour l'instant, je suis pas sûr de la... Enfin, j'étais pas sûr à ce moment-là de comprendre où elle allait. Et puis, j'étais submergé par les informations de comment je vais faire jouer ma partie. Enfin, pour moi, c'était vraiment ça le truc... le choix à la fin et tout. Et puis j'ai joué, malgré tout, sans
je
comprendre...
Dit, qu'est-ce que je t'avais dit déjà?
Ouais, tu m'as dit joue.
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 Jouer plus.
En jouant.
Allez, moi, arrête de te plaindre de ne pas comprendre.
C'est en fait, faut arrêter de se prendre la tête en amont, mais Jérôme le dirait mieux que moi, Jérôme S. Arrêtez de vous prendre la tête en amont avec les épreuves de sens et avec sens. Jouez et vous allez voir, ça va se passer tout seul. Parfois même, les joueurs trouvent eux-mêmes la suite des épreuves. C'est-à-dire que...
À la présentation des choses, aux premières lettres de Classis, déjà, les joueurs commencent à se poser la question de... néant, création, est-ce que qui est qui, enfin voilà, il se pose assez vite cette question là puis elle reste un petit peu, elle se perd un peu dans les limbes puisqu'il n'y a pas de piste pour l'explorer. Et puis après on joue, et puis
donc les lettres de Classis, juste pour préciser,
c'est les interscénarios, en fait
c'est les interscénarios, c'est aussi l'histoire, transmet sa propre histoire, son histoire personnelle. Exactement. Mais cette fois-ci dans Sens Renaissance,
en gros, un chapitre par scénar, à la fin d'un scénar tu racontes ça, ou en interscénar
il raconte sa vie, sa jeunesse,
Et ça aussi ça a une vraie importance dans la façon d'appréhender. Tu voulais dire quelque Emmanuel, chose
Emmanuel? Ouais, par rapport à ça, moi j'ai absolument pas encore lancé cette dynamique là parce que Bon, déjà parce que j'ai des séances courtes et donc pour le moment je voulais les consacrer vraiment à l'univers de Néant pour qu'il se l'approprie. Mais c'est une de mes grandes angoisses, l'équilibrage de ces deux réalités et le rythme aussi, le fait d'arriver à un moment, parce que le truc c'est qu'il faut qu'ils arrivent au grand dénouement et au grand choix de Néant avec une bonne compréhension de tout ce qu'il y a autour aussi. Enfin, j'ai l'impression de tous les enjeux. Et, et du coup, comment on fait pour...
En fait, il y a un truc récurrent
pas trop vite, pas trop lentement.
Les meneurs de jeu, il y a un truc récurrent. Quand vous venez me parler de tout ça, je sens que vous voulez transmettre l'intégralité de ce qui se trouve dans le bouquin. C'est-à-dire que vous avez la sensation que vous avez un bouquin et qu'il faut tout le transmettre. Ça, c'est faux. C'est-à-dire que vous, ce que vous devez faire, c'est faire jouer vos joueurs. Ils ne verront peut-être que la face émergée de l'iceberg. Ils ne verront peut-être pas grand-chose, mais ils sentiront le reste. Et c'est ça qui fera que pour eux, Sens sera quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Il n'est pas nécessaire de tout transmettre. Maxime, tu voulais intervenir là-dessus.
Sauf la table de Shadow qui a tout fait, quoi. Les chanceux.
Ouais, mais ils ont pris le temps de le faire. Ouais,
bah, nous, je vais Shadow. Le redire, mais ça fait 5 ans, on joue une fois par semaine, enfin voilà. On a le temps de. Et puis j'aurais je n'aurais peut-être qu'une seule table. Mais bon, bref.
Alors par rapport à cette métaphysique.
Voilà, cette métaphysique. Alors, on a joué, et moi j'étais pas sûr de maîtriser tout ça, toute cette métaphysique. J'avais peur de pas réussir à transmettre justement.
De tromper.
Voilà, de me tromper, de faire des mauvais choix et tout. Et puis, en lisant le bouquin, moi j'avais énormément d'informations, je savais pas trop quoi en faire, etc. Mais pour l'instant, j'avais pas vu. J'avais pas ouvert les yeux encore. Et mes joueurs jouent, sont confrontés à des situations, et là, du coup, ils échangent. Ils commencent à mettre des pièces, les unes à côté des autres, à voir comment elles peuvent s'emboîter, etc. Et puis, moi, je suis extérieur à ça, mais sauf que là, je vois 4 cerveaux, parce que j'ai 4 joueurs, 4 cerveaux en train de fumer et de se dire « Oh là là, attends, on peut faire ci, on peut faire ça, etc. » Comment est-ce que... Et puis après, donc là, c'est en tant que c'est Tantra, ils essayent de mettre les choses dans l'ordre, ils échangent un peu sur ce qui se passe, puis après, ils sortent, ils sont en tant que bug, et là, ils viennent mêler ils commencent à titiller la métaphysique de Sens, et là, c'est l'illumination. Enfin, moi, je suis tout seul devant mon bouquin, j'ai un cerveau, je suis submergé d'informations, je me demande comment je vais faire jouer mon jeu, et puis maintenant, je suis face à 4 personnes qui réfléchissent avec moi sur tout ça.
La puissance du Maelstrom.
Mais c'est ça. Et là, moi, j'avais 2 pièces, une pièce A et C, et je savais pas quoi en faire. J'avais même pas réfléchi à si elle pouvait s'emboîter ou pas. Et là, mes joueurs commencent à prendre B et D qui s'emboîtent pas du tout, sauf qu'ils les commencent à les malaxer dans tous les sens. Et là, je vois où va B, quoi.
Ah là, tu
et
peux
je fais mon ABC, tac. Et eux ne comprennent pas qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose, mais alors moi. Enfin, c'est l'illumination. Enfin, c'est... Ouais. Et là, je commence à me dire « Ah, mais oui ah, !» mais... Et là, des petits sourires qui commencent à se dessiner sur mon visage, mes joueurs qui me regardent en disant « On touche quelque chose ?» Enfin, quelque part, c'est un peu ça. Et moi, je leur dis « Non, non, enfin... Oui ou non ?» Ou je pousse la réflexion dans mon sens, finalement, pas dans le leur, ou je sais pas. Enfin, il y a une sorte de... Et là, je joue avec eux, quoi. Enfin, c'est... Enfin, j'ai découvert le néant avec eux. Enfin, ouais. C'est incroyable.
Tu vois,
enfin,
qui c'est ?
Oui, c'est ça. Je fais genre, mais moi, je sais. Alors que dans ma tête, ça fait...
Exactement.
Oh là 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 là, c'était ça.
Tellement vrai. Voilà. C'est tellement ça. Les moments où t'es genre, ils trouvent un truc et toi, tu montres rien. Et là, tu fais bien. Genre, ah, bien, vous atteignez mon niveau.
Putain, ils sont trop forts.
donc, ça rassure vachement sur la prise en main de néant. C'est que même si on ne maîtrise pas les tenants, les aboutissants de la métaphysique.
J'aimerais bien que tu cites un exemple concret de cette illustration avant de clôturer ce podcast.
Alors, moi, l'exemple que je cite à chaque fois, c'est dans le rêve d'Azilis, quand il l'emmène dans l'hôtel de la résurrection. C'est ça, je me trompe pas sur les
termes,
peut-être. Non, c'est bon.
Le mausolée de la résurrection.
Dans la cathédrale des ombres. Il se rend dans le rêve d'Azilis, il se promène dedans, il découvre plein de choses. Là, c'est très méta, faut dire ce qui est. Ouais. Et à un moment, il y a un rectangle dessiné avec hachuré à l'intérieur. Et puis un autre rectangle hachuré en contour.
C'est ça,
et l'extérieur. Qui dit, grosso modo, même si on ne sait pas ce qui est, on peut dire ce qui n'est pas
en disant ce qui n'est pas
par transparence,
par contraste.
Et en fait, on a ce dessin de ce rectangle hachuré intérieur et extérieur.
Et la grande question qui se pose à ce moment-là dans l'alarme d'Asie, c'est mais qui qui a bien pu parler, parce qu'il y a plusieurs textes tagués comme ça à l'intérieur du truc ou gravés sur des pierres. Il y a quelqu'un qui a écrit à cet endroit-là en langage de lumière, et donc il y a quelqu'un qui a écrit. On se demande mais qui est ce personnage qui est venu dans l'alarme d'Aziliz et qui a gravé ces messages.
Et moi j'avais du mal à savoir exactement qui c'était. Et là, je leur avais écrit le texte, ils l'ont sous les yeux. Et puis il y en a un qui fait pourquoi c'est un rectangle ? Enfin, les myriadiens, ils font pas tous des ronds.
Eh oui, parce que les mathématiques myriadiennes sont ne consistent qu'en cercles.
Donc là, je te regarde, ils se tournent forcément vers moi. Hein, ils font pas que des ronds, les myriadiens.
Il m'a regardé.
Et là, j'ai fait un petit sourire, genre. Ça vous intrigue. Et dans ma tête c'était ah ouais merde, un myriadien ça fait pas que des ronds. Et là grande réflexion sur moi-même, mais j'avais même pas capté en fait ce détail simple, enfin c'est cette chose qui devrait me sauter au visage tellement j'étais immergé dans le il faut que je réussisse à faire jouer, il faut que je comprenne la métaphysique et tout. C'est un exemple qui illustre très bien le fait qu'on revoit des choses, qu'on redécouvre des choses, qu'on
en fait, je voulais que tu perçois. De quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, Maxime ?
Du coup, t'as trouvé qui c'est ?
Toi, tu sais.
Alors, moi, j'ai toute la piste pour trouver. C'est-à-dire que je sais que maintenant, il me faut vraiment... Mais je retarde ce moment-là.
Il est fort.
Ce que je voulais, évidemment, c'est que le meneur de jeu découvre le jeu en jouant. C'est-à-dire que souvent, ce qui est dommage quand on joue ou qu'on maîtrise un jeu, c'est qu'en fait, le maître de jeu est en forme...
quelque chose, quoi.
Il est là surtout avec sens, il est là pour exposer des faits, exposer des choses. Et donc du coup, comme il les connaît avant, il n'apprend rien. Là, dans Sens Néant, c'est impossible que le MJ n'apprenne rien. À moins que ce soit vraiment un tueur et que, comme Maxime... Je crois que les seuls qui me font peur à ce niveau-là, c'est un peu Maxime et Morgan, parce qu'ils ont une connaissance qui est tellement exégétique des autres bouquins qu'ils ont fait des liens et qu'ils arrivent à trouver des trucs sur l'avenir sans même... Et donc, du coup, j'avais peur que pour vous, Max, ça ne fonctionne pas.
Et vraisemblablement, il y a une réponse des témoignages. À ça. Hein. Je pense qu'aussi des auditeurs qui écoutent tous les podcasts, qui se penchent un peu sur le forum, etc., peuvent arriver à des conclusions similaires ou très proches. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y a une émulation... que moi je n'avais pas. C'est-à-dire que moi je suis seul face à mon livre, alors vous êtes deux,
déjà,
et que vous pouvez en parler,
livre,
échanger, construire des théories, et puis c'est ce qui se passe à ma table.
On a eu les forums, les podcasts, discuter entre nous, discuter avec tout le monde avant même de commencer une table de mort, tu vois. Donc,
mon pouvoir découvrir, il y a certaines révélations, vous êtes arrivés, vous m'avez dit, je pense que c'est ça, 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 parce que ça, 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 et moi je suis là, en tant qu'auteur, t'es là.
Petit merde. Sourire.
Merde.
Non,
ça me fait pas sourire parce que je me dis putain, merde. Et quand ils vont lire la suite, ils auront aucune surprise parce que voilà. Après, je pense que c'est quand même agréable de voir la confirmation de sa théorie apparaître dans le bouquin en se disant haha, on avait trouvé. Enfin, il y a un petit.
Et ça crée un truc dans Néant, c'est que moi j'ai pas vraiment ça, ce que tu dis. Le fait de découvrir des trucs grâce aux joueurs. Autant je prends quand même énormément de plaisir à les voir faire des déductions tout seul parce que je leur dis quasiment rien, mais c'est pas pareil, c'est-à-dire que moi je découvre rien, c'est-à-dire que quasiment toutes les questions qu'ils disent, je suis là. Moi je souris vraiment parce que c'est genre ah c'est bien vous trouvez, mais il y a des fois ils partent dans des délires que je kiffe.
Oui, parce
et
que
des trucs qui sont faux et du coup je les rends vrais. J'ai plus d'exemples en tête, mais j'ai déjà rendu certains de leurs délires vrais. Parce que je l'ai trouvé génial.
Trop bien, ouais. Voilà. Moi, ça m'est arrivé aussi à Madame de Sens.
Il y a une construction de Néant aussi, comme ça, un petit peu. Hein. On laisse divaguer un peu nos joueurs et puis, on construit autour et c'est très agréable.
Puis même le livre est conçu comme ça. C'est-à-dire qu'il n'en dit pas assez. Hein. Il y a une espèce de chapitre après chaque école qui parle des rumeurs de l'école, qui décrit des scènes qui sont décorrélées complètement d'un récit cohérent. Donc du coup, ça permet comme ça d'accéder à certains secrets.
Mais en tout cas, MJ, si vous avez peur un petit peu de ces secrets, parce que malgré tout, je n'ai pas fini encore Néant, et j'ai une appréhension continue sur ce qui va se passer, surtout la fin, comment le faire jouer, etc. Même si j'ai cette appréhension et même si elle a persisté au cours des parties, je vis plus sereinement avec. Parce que j'ai quand même l'impression que ça va se faire un petit peu tout seul, que mes joueurs sont prêts.
Merci Shadow pour ce témoignage, c'est super. On sent bien toutes les difficultés que tu as réussi à dépasser grâce justement au Mindstorm, c'est-à-dire à la réflexion collective autour des situations possibles de sens néant. Bravo à toi, merci pour ce témoignage, ça fait super plaisir. Et puis ça permet d'avoir du concret vraiment à donner à nos auditeurs qui auraient peur de sens néant. Il ne faut pas en avoir peur, c'est un univers qui est très très difficile forcément à mettre en place, mais une fois qu'il se met en place, on voit bien que la synergie se fait et qu'il y a énormément de choses à creuser.
Si vous en avez l'occasion, faites jouer la communauté, venez discuter avec nous. Je veux dire, enfin, moi en tout cas, je le dis, il y a nos mails sur le truc. Si vous avez des questions et que Rome n'a pas le temps de vous répondre, si vous voulez nous rencontrer, si vous êtes sur Paris, ce genre de choses, pour en discuter, ou sur Lyon, il y a des gens partout. Et si vous stressez vraiment, vous stressez pas dans votre camp, ou parlez-en à vos joueurs, ça marche aussi très bien. Mais
en tout cas,
les joueurs savaient que j'étais stressé avant de commencer.
Autant vous le savez, hein, je suis très très critique à l'encontre de Sens Renaissance. Hein. J'ai l'impression d'avoir un petit peu de plus trop aimé ce jeu. J'aime encore Sens Mort pour son univers, mais son système me débecte. Autant Sens Néant, j'en suis encore très très fier. Et si tu vois, c'est un jeu, j'ai encore envie d'y jouer dedans. À vous entendre en parler, j'ai encore envie de maîtriser des scénars, j'ai encore envie d'être joueur à ce jeu. Enfin, c'est un jeu qui est vraiment pour ça, qui me plaît beaucoup moi à titre personnel. Donc je sais que ça peut paraître assez vantard de l'extérieur, l'auteur qui vient
s'auto-congratuler,
mais bon, c'est celui qui est le plus vendeur.
Ah bah nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans Sens. Hein. Morgane, elle a entendu parler de Sens Néant, un jeu où on joue avec les sentiments. Et bim, du coup, on fait ah bon, pour le comprendre, faut jouer au reste. Bon, on va jouer au reste.
Ah, c'est un point de vue, parce que moi, si j'avais parlé de ça à mes joueurs, ils m'auraient dit non, merci, non, c'est bon,
enfin. C'est marrant. Hein.
Et parce que c'est le côté épique de. Épique méta de Renaissance, et puis finalement, maintenant, ils surkiffent. Comme quoi,
c'est l'ensemble. Hein. Qui est bien, c'est-à-dire que chacun rentre par sa porte, chacun a son envie, et en même temps, tout le monde arrive aux mêmes conclusions métaphysiques et philosophiques, et c'est ça aussi qui est intéressant. Bon, en tout cas, pas aux mêmes conclusions philosophiques, mais en tout cas aux mêmes réflexions. Et c'est ça qui compte. Merci ouais. Emmanuel, merci Shadow, merci Maxime pour ce témoignage. À bientôt tout le monde. Ce qui compte surtout, c'est que vous portiez bien et que vous jouez bien. Bye. Salut!
Les bisous!
Bisous!